France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La justice a autorisé ce matin la reprise des travaux de la 69 entre Castres et Toulouse. Une reprise toutefois temporaire puisqu'une décision définitive en appel est attendue l'an prochain. Autant dire que le projet est loin d'être terminé mais pourrait d'ores et déjà entraîner des conséquences difficilement réparables. Face à l'impasse des négociations sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a pris l'initiative de réunir à Paris les acteurs clés du dossier, quitte à bousculer un peu, on le verra, le ministre des Outre-mer Manuel Valls. C'est plus l'actualité à l'étranger. C'est notamment ce déplacement aujourd'hui à Berlin du président ukrainien. On se demandera si l'Union européenne a raison de se montrer optimiste sur ses objectifs climatiques pour 2030. Enfin, avec notre invité, on tâchera de savoir si la fin, à partir d'aujourd'hui, de la mission d'Elon Musk auprès de l'administration américaine est une clarification ou non du trumpisme. C'est donc un dérapage de plus, certes contrôlé mais appuyé sur le circuit décidément glissant de la 69. Après 3 mois d'arrêt, les travaux de l'autoroute vont pouvoir reprendre. Ainsi en a décidé ce matin la Cour administrative d'appel de Toulouse, laquelle a décidé de répondre favorablement au recours en urgence déposé par l'État, un revers pour tous les collectifs écologistes qui jugent ce projet aussi anachronique que climaticide. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Les magistrats ont suivi en réalité les conclusions du rapporteur public qui s'était prononcé lui la semaine dernière pour une suspension des jugements du tribunal, le tout en attendant une décision sur le fond qui ne sera rendue, elle, que l'année prochaine.
Oui, la décision de ce jour est effectivement une nouvelle étape car la Cour doit encore trancher sur le fond de ce dossier d'ici plusieurs mois, d'ici peut-être la fin de l'année. Aujourd'hui, elle se prononçait sur un recours en urgence déposé par l'État visant donc à redémarrer ce chantier autoroutier de 53 km. Elle intervient quelques jours aussi avant le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi dite de validation, loi adoptée au Sénat à la mi-mai, que les opposants jugent contraire à la Constitution, mais cette voie parlementaire permet d'autoriser la poursuite du chantier sans attendre que la Cour d'appel administrative se prononce sur le fond du dossier. En attendant, la nouvelle de ce matin a été accueillie avec beaucoup de soulagement par le sénateur centriste Philippe Folliot.
Je crois que c'est une bonne nouvelle. Si vous me permettez l'expression, le bon sens, l'oubliaïs, comme on dit chez nous, l'a emporté. Parce qu'il y a eu une attente particulièrement forte de la population, des élus locaux, des forces économiques du sud du Tarn. Tant cette artère est vitale pour nous, et puis cette situation ubuesque dans laquelle nous étions, avec cette gabegie financière, 200 000 euros par jour que coûte l'arrêt de ce chantier, eh bien il fallait en sortir, il fallait en finir, et cette décision est une étape, c'est une étape importante pour la reprise du chantier.
Pour les opposants à la 69, la manœuvre est claire, les travaux seront terminés, que l'affaire ne sera toujours pas jugée sur le fond, sur l'intérêt majeur de cette autoroute. Pour Alain Hébrard du collectif La Voix est libre, les juges sont sous pression.
Clairement, les juges ont cédé à l'énorme pression à la fois du gouvernement, des élus locaux et des lobbies, malgré l'absence totale d'éléments nouveaux par rapport au verdict de la première instance. Là, clairement, on va faire appel devant le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État, c'est pas suspensif. Je pense que ça va rendre furieux beaucoup de monde et qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, exprime lui son soulagement de voir les travaux reprendre, reprise progressive dès la mi-juin. Les opposants à la 69 appellent à des rassemblements dès ce soir devant les préfectures pour, écrivent-ils, laisser éclater leur colère.
Merci Véronique Robérotte. Au nom de la Rose, ils ne sont plus que deux désormais à pouvoir prétendre à la couronne socialiste. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Les deux hommes sont arrivés en tête hier du premier tour de scrutin pour désigner celui qui prendra la tête du parti, avec bien entendu pour principal enjeu la stratégie pour la présidentielle de 2027. Les militants seront à nouveau appelés à voter le 5 juin. Et pour départager les deux finalistes, Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, le troisième homme éliminé hier pourrait bien se retrouver en faiseur de roi. Loin du brouhaha ambiant qui parcourt généralement les tribunes de l'Assemblée, c'est dans un hémicycle pourtant quasi rempli que les députés ont approuvé hier en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir, comprenez au suicide assisté, de manière exceptionnelle à l'euthanasie, mais le débat promet encore d'être long avant de s'assurer qu'aucune polémique partisane ne viendra remettre en cause cette orientation sociétale historique. En l'occurrence, le texte devra passer entre les mains du Sénat, plus conservateurs à l'automne prochain, avant de revenir à l'Assemblée pour une deuxième, voire une troisième lecture.
Sur la longue liste des enseignes de prêt-à-porter en crise, Jennifer attend toujours son sauveur.
Ou plus exactement, son repreneur. C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Bobigny doit se prononcer sur le sort des 999 salariés de la marque vieille de près de 40 ans et de ses 220 magasins de mode partout en France. Au total, 13 offres de reprise ont été déposées, dont 3 seulement sont qualifiées de sérieuses, et parmi elles, la mieux disante ne propose de sauver que 400 emplois. Alors, la liquidation judiciaire prononcée fin avril s'inscrit, on l'a dit, dans un contexte général de crise du textile, laquelle s'explique en partie par l'arrivée massive sur le marché aujourd'hui de l'ultra fashion, fast fashion, comme l'explique Myriam Bourmangel, déléguée syndicale centrale CFE-CGC auprès de la marque depuis 19 ans.
Le marché aujourd'hui, il est tellement concurrentiel, il y a beaucoup de concurrence déloyale, les prix des coûts, ben, vous doutez bien, je veux dire, il y a l'évolution effectivement de toutes les charges qui sont liées aux affrètements, etc. Et donc, on n'a pas réussi à pallier, parce que on a les gros entrepreneuriats tels que Shine, Temu et j'en passe, hein, qui aujourd'hui, ben, on n'arrive pas à leur niveau, quoi. Enfin, voilà, les modes de fonctionnement ont changé, très clairement, depuis l'après-Covid. Aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, notre cible à nous, cherchent du prêt à jeter. Donc, ils veulent et à moindre coût et à la mode, chose que, effectivement, notre business model ne permet pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste un business model qui ne permettait pas, effectivement, de s'aligner à nos super concurrents, quoi.
Voilà, Myriam Bourmangel, déléguée syndicale donc chez Jennifer, elle répondait à Jeanne Stémard. C'était dimanche dernier, après avoir échoué à mettre d'accord indépendantistes et loyalistes sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avait réaffirmé être toujours chargé des discussions. « Celui qui s'occupe du dossier, c'est moi, il n'y en a pas d'autre », avait-il martelé avant de réfuter être désavoué par quiconque. Et pourtant, l'invitation lancée ce matin par Emmanuel Macron aux responsables des deux camps de venir à Paris pour relancer un dialogue bloqué ressemble à s'y méprendre à un affront. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Clairement, le chef de l'État a décidé, Stéphane, de reprendre les choses en main.
Oui, après l'échec des négociations initiées par Manuel Valls début mai, Emmanuel Macron reprend en main le dossier calédonien. Ça ne s'est pas fait dans notre dos, indique le ministère des Outre-mer. Manuel Valls a parlé au président à deux reprises, une première fois dans le courant du week-end et une seconde fois hier pour évoquer le sujet. Il semble toutefois que ce n'était pas pour consulter le ministre qu'Emmanuel Macron lui a téléphoné, mais uniquement pour l'informer de sa décision. Et le ministère ne cache pas son embarras face à l'initiative présidentielle, même s'il minimise ce qui ressemble fort à un désaveu. Car cette décision du chef de l'État va à l'encontre du processus initié par Manuel Valls ces derniers mois. Déjà, le choix d'Emmanuel Macron ramène les discussions à Paris, en métropole, alors que celle initiée par Manuel Valls se déroulait à Nouméa. Et il n'est pas sûr que toutes les parties prenantes viennent à Paris pour discuter, les indépendantistes notamment, car pour eux, d'éventuelles négociations ne peuvent se dérouler que sur le territoire calédonien, la base militante étant consultée à chacune des propositions qui leur sont faites. Ensuite, on voit mal comment le FLNKS accepterait de relancer des discussions qui ne repartiraient pas du projet que Manuel Valls a mis sur la table il y a quelques semaines. Ce projet prévoyait d'accorder à la Nouvelle-Calédonie une autonomie encore plus grande que celle dont elle dispose actuellement, avec la création d'une double nationalité, calédonienne et française, et un partage de l'exercice des compétences régaliennes. Ce projet du ministre était contesté par les loyalistes, c'est-à-dire les non-indépendantistes les plus radicaux. Ils y voyaient un projet d'indépendance qui ne disait pas son nom et avait rompu les négociations. Cette fois, c'est le camp indépendantiste qui pourrait bien émettre une fin non-recevoir en déclinant l'invitation, malgré une situation économique et sociale très dégradée dans cet archipel français du Pacifique, situé à près de 17 000 km de Paris.
Merci Stéphane Robert.
À l'issue de 3 mois d'audience, l'heure du verdict a sonné pour Joël Le Scouarnec.
C'est cet après-midi que l'ex-chirurgien accusé d'avoir agressé sexuellement près de 300 patients, pour la plupart mineurs, connaîtra le sort que lui réserve la cour criminelle du Morbihan lundi dernier. Invité une dernière fois à prendre la parole, le pédocriminel n'a demandé aucune mansuétude au juge. L'avocat général a requis contre lui la peine maximale, soit 20 années de réclusion.
Midi passé de 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas.
La guerre de représailles menée par Israël après les attaques terroristes du Hamas est entrée ce matin dans son 600e jour, sans espoir de trêve ni de libération des derniers otages, et dévorée par un effroyable bilan humain. Le poison de l'impuissance, toujours et encore face à ce sentiment d'horreur qui s'est installé dans notre quotidien médiatique en Ukraine, là-bas aussi, après plus de trois années d'invasion russe, le pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ne connaît toujours aucun répit, bien au contraire, puisque Moscou aurait même massé des dizaines de milliers de soldats près de la région ukrainienne de Soumy, en vue d'une possible nouvelle offensive contre ce territoire frontalier. Autant dire qu'on est très loin des soi-disant négociations en cours, censées mettre un terme au combat. Même le président Donald Trump a une nouvelle fois laissé éclater hier sa frustration envers son homologue Vladimir Poutine, accusé de jouer avec le feu. En attendant, Volodymyr Zelensky lui est arrivé ce matin à Berlin pour y rencontrer le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, l'un de ses plus fervents soutiens. Agathe Mahuet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes à Kiev pour tenter tant bien que mal de faire avancer les discussions. Le président ukrainien se dit désormais favorable, Agathe, à une rencontre trilatérale avec les présidents américains et russes.
Oui, le président ukrainien insiste, ce n'est pas la première fois qu'il propose de rencontrer directement l'homme du Kremlin, main tendue déjà il y a 15 jours, par exemple à Istanbul, où Vladimir Poutine avait refusé de se rendre. Zelensky répète donc que l'Ukraine, elle, est prête à ce format à trois avec Donald Trump, pour bien montrer que ce n'est pas lui, une fois de plus, qui ralentit le processus pour un accord de paix. D'ailleurs, la diplomatie russe avait promis de transmettre à Kiev un mémorandum pour préparer ces discussions à l'issue d'un grand week-end ampleur inédite d'échange de prisonniers de guerre. Eh bien, le week-end est passé, l'échange massif a eu lieu, mais les Ukrainiens n'ont toujours pas reçu ce document russe. Sur le plan militaire, en revanche, pas de répit de part et d'autre. Et c'est donc dans ce contexte, en effet, que le président ukrainien est arrivé aujourd'hui à Berlin pour une rencontre avec celui qui est rapidement devenu l'un de ses plus importants soutiens, le nouveau chancelier Friedrich Merz, qui aura sans doute aujourd'hui l'occasion de préciser sa pensée sur son annonce d'il y a quelques jours. Il expliquait alors que les alliés occidentaux de Kiev allaient lever la limitation de la portée des armes qu'ils livrent à l'Ukraine.
Merci Agathe Mahuet à Kiev. Faut-il y voir un signe du ciel ? Hier, le vaisseau d'Elon Musk s'est désintégré au-dessus de l'océan Indien après avoir perdu le contrôle de sa trajectoire. C'est la troisième fois que la fusée Starship de SpaceX échoue ainsi à compléter son vol suborbital. Hors hasard du calendrier, cet échec est intervenu la veille de la fin officielle de la mission que certains qualifieront de lunaire du milliardaire en tant qu'employé spécial du gouvernement américain. Alors Elon Musk avait déjà annoncé en réalité à plusieurs reprises son intention de prendre du recul avec le rôle que lui avait confié Donald Trump, de couper drastiquement dans les dépenses fédérales. Malgré tout, comment interpréter ce départ donc du fameux DOGE, acronyme de Département pour l'efficacité gouvernementale ? Faut-il y voir une sorte de clarification du trumpisme ? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Raphaël Demias-Morisset, chercheur à l'université George Washington aux États-Unis et par ailleurs chercheur associé de l'Institut de recherche Montesquieu de l'Université de Bordeaux. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
Je parlais à l'instant de hasard de l'actualité du calendrier. En réalité, le vrai télescopage vient de ce que le retrait d'Elon Musk de la tête du Doge intervient juste avant la date butoir à laquelle il aurait dû se plier aux obligations de contrôle de transparence des membres de l'administration. Quoi qu'il en soit, 4 mois donc après, quel bilan économique peut-on dresser de sa mission ? Son service revendique 160 milliards de coupes.
Alors, je pense, oui, effectivement, apprécier le bilan du Doge dépend vraiment de si jamais on a pris au sérieux le caractère assez fantaisiste des promesses de départ d'Elon Musk, puisque à l'origine, il s'agissait de diviser par deux les dépenses de l'État américain, puis d'économiser 1000 milliards. Et enfin, bon, voilà, on arrive à ce chiffre de 170 milliards d'économies. Donc, c'est même pas un cinquième de ce qui était prévu. Et à côté de ça, en fait, la politique de renvoi des fonctionnaires, elle a engendré des coûts qui se chiffrent après en centaines de millions, voire en centaines de milliards d'euros, enfin de dollars, pardon, pour l'État américain. Donc, le résultat sur le plan purement économique, il apparaît relativement médiocre. En revanche, par contre, sur le plan politique et sur le plan juridique, on voit qu'il a eu, enfin, le Doge a eu un impact très important. Et on va dire, il a montré que les contre-pouvoirs américains étaient en fait relativement fragiles et qu'il était possible de gouverner potentiellement les États-Unis à la manière d'un CEO de la Silicon Valley, à condition par contre d'avoir les soutiens des autres factions de la coalition au pouvoir, ce qui n'a pas été le cas de Elon Musk.
Quelles oppositions justement le projet d'Elon Musk a-t-il rencontré au sein de l'administration Trump ? Est-ce que ce sont ces contradictions internes au projet Trumpiste qui l'ont empêché de mener à terme sa mission ?
Alors, on va dire qu'il y a une opposition, je pense qu'on peut considérer qu'il y a une opposition à deux niveaux, qu'il y a déjà une opposition au niveau de la base, et qui était, qui est une incohérence, un problème qui est inhérent au projet trumpiste, c'est-à-dire que les réductions budgétaires et les licenciements de fonctionnaires qui ont été mis en œuvre par le Doge de manière extrêmement, brutale, et souvent dehors de tout cadre légal, et on ne sait pas encore quelles vont être les réponses de la justice américaine sur certaines de ces coupes, mais on va dire que ces licenciements ont forcément provoqué un rejet massif de la part des classes moyennes et des classes populaires qui font partie des soutiens, on va dire, des mouvements populistes, la base, on va dire, des mouvements populistes qui soutiennent Trump, comme le mouvement MAGA. Et donc, en fait, on a vu les chefs de file de ces mouvements, comme par exemple Steve Bannon, critiquer de manière extrêmement prononcée les licenciements. Donc, en fait, on a une contestation qui vient de la base, et on a également une contestation qui est venue de la tête de l'État américain, parce qu'en fait, pour pouvoir mettre en place ces coupes budgétaires, Musk s'est imposé un petit peu comme un chef d'entreprise au sein de l'État américain, ce qui nécessitait la coopération des autres barons du Trumpisme qui étaient en fait nommés aux autres postes au sein de l'administration américaine. Et à partir de mars, la plupart justement de ces barons, par exemple, ont refusé de se plier aux demandes de Musk, ont refusé de se plier à ses injonctions en matière de réduction et de licenciement. Et donc, ce qui a nécessité l'intervention de Donald Trump, qui a justement, demander à Musk d'opérer avec beaucoup plus de parcimonie. Et donc, en fait, ça, dès mars, le projet du Doge avait déjà pris fin d'une certaine manière.
Est-ce que ce départ d'Elon Musk du Doge pour officiellement se réorienter vers ses entreprises peut être lu comme une forme de désaveu du coup de la tendance qu'il incarnait au sein du Trumpisme et ce faisant comme une clarification peut-être aussi du projet politique de Donald Trump?
Alors, je pense qu'on peut effectivement complètement parler de clarification idéologique. Alors, c'est qu'il y a un désaveu partiel dans le sens où je parlais d'une incohérence fondamentale au sein du projet de Trump. En fait, les licenciements de fonctionnaires vont continuer, et parce que c'était en fait un des éléments clés de la stratégie mis en œuvre dans le projet 2025. Et dont l'un des architectes est Russell Vought, qui est toujours aujourd'hui ministre du budget, l'équivalent du ministre des budgets aux États-Unis. Donc en fait, les licenciements vont continuer, mais de manière beaucoup plus subtile, enfin de façon beaucoup plus, conforme avec le droit américain, puisque le projet à l'origine, c'est bien de renvoyer l'ensemble des fonctionnaires pour faire une sorte de restart et recruter des nouveaux fonctionnaires qui soient, eux, fidèles au régime. Donc ce projet-là, il va continuer, mais de manière, sous-jacente. En revanche, ce qui est une clarification, c'est qu'il n'est plus du tout question de réduire les dépenses de l'État américain, mais au contraire, d'accroître les déficits, d'accroître les dépenses via les politiques de l'offre, avec des soutiens massifs envers les entreprises et des baisses d'impôts sur les hauts revenus, ce qui va forcément impliquer une hausse du déficit et une hausse de dépenses de l'État. Donc en fait, on a vraiment une clarification idéologique sur le projet politique du Trumpisme. Il n'est pas de réduire le poids de l'État dans la société et dans l'économie.
Et on terminera par ces mots. Merci Raphaël Demias-Morisset, chercheur, je le rappelle, à l'Université George Washington aux États-Unis et chercheur associé de l'Institut de recherche Montesquieu de l'Université de Bordeaux, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
L'Union européenne se dit en bonne voie pour ses objectifs de réduction de CO2.
Oui, la Commission européenne a dévoilé ce matin ses évaluations des plans nationaux énergie-climat que les gouvernements mettent sur la table. Et pour la première fois, l'UE estime en effet être en bonne voie. Selon la Commission, les plans énergie-climat sont en ligne avec les objectifs fixés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Précision depuis Bruxelles de Pierre Benazet.
L'Union européenne s'est fixée comme objectif pour 2030 de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. 1990, c'est la date du premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, si les engagements de chaque État membre de l'UE se concrétisent, et ils semblent en bonne voie selon la Commission, l'UE aura réduit ses émissions de 54% au moins dans 5 ans. 2030, c'est ce que les Européens s'étaient fixé comme étape majeure pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption de carbone dans l'atmosphère. Le ton change du tout au tout par rapport à la dernière évaluation en 2023. Depuis cette date, il y a une accélération des efforts. 8 points de pourcentage ont été gagnés en 2 ans. Résultat, l'Europe a réduit aujourd'hui de 37% ses émissions depuis le premier rapport du GIEC. Pour la Commission, l'objectif de 42,5% d'énergie renouvelable est en bonne voie. Il ne reste plus maintenant qu'à fixer enfin l'objectif pour la prochaine étape, en 2040. La Commission aimerait 90% de réduction des émissions et elle espère se mettre d'accord sur ce point avec les 27 d'ici l'été.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux au nord avec quelques averses possibles entre le bassin parisien et l'Alsace. Ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.